Dans sa première épître, Jean nous parle de ce bien-aimé. Ce bien-aimé qu'on invite dans nos jardins et dans notre jardin, et ce bien-aimé qui nous invite dans son jardin. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous sommes dans la première épître, la première lettre de Jean. Jean, qui a écrit l'évangile de Jean, commence en disant « Au commencement était » la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Puis il explique aussi que cette parole était lumière, il explique que c'était la vie. Et ici, dans sa première épître, il prend le même vocabulaire, et il commence de la même manière. Ce qui était dès le commencement, qu'est-ce qui était dès le commencement dans ce texte? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui a participé à la création. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé à la création. Le Fils de Dieu qui est Dieu et qui à un moment donné a pris le corps d'un homme. Il s'est incarné, Jésus-Christ. Et voilà pourquoi Jean dit ce qui était dès le commencement. J'ai envie de dire le ciel est venu sur la terre. Parce que nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Le Fils de Dieu s'est laissé voir, il a parlé, il s'est fait entendre audiblement. Les disciples qui l'ont côtoyé il y a 2000 ans ont même pu le toucher. Il s'est fait tellement accessible. Et en même temps, cette personne, ce Dieu, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas plus de vie que Dieu. Et Dieu, la vie, est venu se présenter à nous. Alors Jean, il est en train de dire, mais ce que nous avons vu, cette vie, ce Dieu vivant qui est venu nous rejoindre, c'est lui que nous vous annonçons. Pourquoi? Afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Il y a quelques semaines, presque un mois, André a donné le titre de son message « Es-tu l'ami de Dieu ?» Et aujourd'hui, il est plutôt question de communion, mais c'est tellement proche. Et André a fait son message à partir de l'évangile de Jean. Dans le sens de demeurer. Rides, une semaine avant, a aussi parlé du fait de demeurer en Jésus. Et ici, il est question de communion. On est exactement sur la même ligne. En communion avec notre bien-aimé. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean dit, pour que vous soyez en communion avec nous. D'abord, entre frères et sœurs. Or, notre communion, elle est en Dieu. Il n'y a pas de communion en Dieu sans communion entre frères et sœurs. Il n'y a pas de communion entre frères et sœurs sans communion en Dieu. Au début de semaine, peut-être certains l'ont entendu au journal télévisé ou peut-être que vous l'avez lu dans le journal, mais il y a un sondage national qui a été fait sur la thématique de l'amitié, justement. Et puis, il est ressorti dans ce sondage qu'un Suisse moyen... Il a 4 amis proches et 8 d'un cercle élargi, puis ensuite les connaissances, c'est environ une cinquantaine de personnes. 4 amis proches, c'est pas beaucoup. Et pourquoi? Il est noté dans l'article que c'est difficile de se faire des amis parce que ça demande de la confiance. Et pour avoir de la confiance, il faut du temps, il faut éprouver la personne. C'est comme si on a besoin que la personne avec qui une amitié semble s'instaurer, on a besoin de la voir telle qu'elle est. On a besoin de voir son authenticité. On ne lui demande pas d'être parfaite, mais on lui demande de se montrer telle qu'elle est. Et ensuite, ça va aussi nous permettre de se dire, bah, peut-être qu'on a du feeling, il y a quelque chose qui nous lie, on a des aspirations communes, il y a un courant qui passe. Mais on a besoin de connaître cette personne. On ne peut pas développer une amitié comme ça quand on rencontre une personne pour la première fois. On a besoin de voir sur la durée. Imaginez, il faut que cette personne, elle soit dans la lumière. Alors imaginez une salle de théâtre. Une salle de théâtre obscure juste avant que le spectacle commence. Vous êtes dans les spectateurs. Il fait tout nuit. Dans les quelques secondes, le rideau va s'ouvrir et ça va commencer. Et tout à coup, le rideau s'ouvre et sur la scène, toujours noir, un spot projette un faisceau de lumière. Il a comme une espèce de forme conique. Et tout ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est le plancher, parce qu'il est illuminé. Et à un moment donné, il y a un des acteurs qui entre sur la scène. Et on l'entend marcher, mais on ne le voit pas, parce qu'il passe un peu autour de ce cercle de lumière. Et peut-être qu'il commence à parler. On entend sa voix, on entend ce qu'il dit, mais on ne voit pas ses gestes. Alors on ne sait pas très bien si ce qu'il dit, c'est en adéquation avec son non-verbal, avec sa gestuelle. On ne sait pas trop, on ne sait même pas comment est-ce qu'il est habillé. On ne sait pas quelle taille il a. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et à un moment donné, cet acteur, il entre sous la lumière. Et là, on le voit. Quand il parle, on sait s'il nous parle en face ou s'il nous tourne le dos. Quand il parle, on voit la tête, le visage qu'il fait et on arrive à voir s'il est bienveillant ou bien pas. On peut voir s'il nous parle avec les yeux ouverts, les yeux fermés. On peut voir la couleur de ses vêtements. On peut prendre connaissance de sa gestuelle. Il est dans la lumière. Il est révélé par la lumière. Aujourd'hui, j'ai intitulé le titre de ce message « Marcher dans la lumière ». Et je vous propose, après ce prologue de 1 Jean, de lire la suite, enfin une partie de la suite, où il va développer un premier pan de qu'est-ce que c'est que d'être en communion. 1 Jean 1, à partir du verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. La nouvelle que nous avons apprise de lui, toujours de Jésus-Christ, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je prends juste encore le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous savez, quand un apôtre écrit une lettre, ce n'est pas pour le plaisir. Chaque fois qu'un apôtre écrit une lettre, c'est une lettre de circonstance. C'est parce qu'il se passe quelque chose et qu'il va donner son avis ou ses recommandations ou ses corrections. Par exemple, quand Paul écrit aux Galates, c'est parce qu'il y a des agitateurs qui sont en train de perturber cette jeune église en disant que les nouveaux chrétiens non-juifs doivent se faire circoncire. Ils remettent la communauté sous la loi alors qu'on a reçu la grâce. Quand il écrit aux Corinthiens, Paul y répond à des lettres des Corinthiens qui sont parfois assez solides, assez tendues, et Paul il doit comme justifier son ministère et en même temps il doit remettre les pendules à l'heure au niveau entre autres de la moralité. Quand Paul écrit à Philémon, c'est pour lui dire de libérer Onésime. Quand Jacques écrit à l'Église, c'est pour encourager cette Église en disant « Mais toutes les persécutions que vous vivez, prenez-les comme des tests, comme des épreuves qui vont vous faire grandir. » Il y a toujours une raison pour qu'un apôtre écrive une lettre. Jean, il fait face à des hérétiques. Des hérétiques, c'est des gens qui n'ont pas compris, donc volontairement ou involontairement, ont faussé la doctrine de Dieu. La doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine de la vie chrétienne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Jean écrit, l'Église, elle a déjà plus que 50 ans d'âge. Elle n'en est pas au tout début. Pour nous, c'est l'Église primitive, c'est les tout débuts de l'Église, bien sûr. Mais elle a quand même 50 ans d'âge. Qui est dans cette communauté depuis 50 ans ? Il y en a qui n'osent pas lever la main, mais il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Elle a de l'âge, cette Église. En fait, ce n'est pas juste l'Église qui a de l'âge, mais l'Évangile, l'annonce de l'Évangile, la réception du Saint-Esprit a déjà progressé. Il y a déjà beaucoup de chrétiens. Et directement, il y a les fausses doctrines. Et ces hérétiques, c'est des gens qui se croient super spirituels parce qu'ils sont complètement influencés par la pensée grecque qui dit que tout ce qui est important, c'est le spirituel, mais la matière est mauvaise. Donc, si la matière est mauvaise, ça veut dire que le corps est mauvais. Ça veut dire que soit on n'en fait aucun cas, soit on peut en faire ce qu'on veut. Ça ne va pas changer la face du monde, ça ne va rien changer devant Dieu. Ce qui est important, c'est d'être spirituel. Et tout ça, ça remet en cause le message de l'Évangile. Mais juste une preuve que la matière est très bonne, c'est parce que quand Dieu a terminé sa création, il a dit que c'était très bon. Et si le corps de Jésus-Christ n'avait pas été ressuscité, on pourrait se poser des questions. Mais il a été ressuscité. Donc ce corps, la matière, elle a une suite. Elle est très bonne. Et tout va ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Bref, je ne veux pas entrer sur ces hérésies, mais celles du départ, c'était des gens qui se prenaient pour hyper spirituels et ils pensaient que ce qu'ils faisaient n'avait pas d'incidence sur leur communion avec Dieu. Et c'est à ça que Jean répond. En fait, dans ce passage qu'on a lu, ils ont trois prétentions erronées. Je ne sais pas si vous les avez repérées. Je ne sais pas si vous avez repéré que ce passage, il est partagé en trois parties. J'entends pas de confirmation, mais c'est normal pour une première lecture. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que bien sûr, il s'agit d'hérétiques qui ont affirmé des choses et que Jean va remettre de manière juste, mais ça nous concerne. Bien sûr que ça concerne notre société, peut-être en premier plan, mais l'Église n'en est malheureusement pas en reste. Ce message, il est pour nous. Ces trois prétentions, Jean les a traduites par une phrase qui dit « si nous disons ». Au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché. Jean prend ces trois prétentions, ces trois affirmations erronées, puis il les remet à l'endroit. Et ce matin, on va juste prendre la première. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Voilà le cadre qu'il pose avant de développer son propos. Le postulat Dieu est lumière. La lumière. La lumière, il y a sûrement des scientifiques beaucoup plus avancés que moi dans cette salle. Mais la lumière, c'est la base de la base. La lumière de Dieu, où Dieu est lumière, ça veut dire que Dieu est infini. Mais il est infini dans ses perfections. Il est infini dans toutes ses perfections, dans tous ses attributs, dans son indépendance, dans son omniscience, dans son omniprésence, dans tout ce qu'il est. Et dans son amour, il est infini, infini de perfection. Sa vérité, elle est parfaite à l'infini. La vérité, la volonté de Dieu, tout est parfait, tout est infini. Tout est dans la lumière, il n'y a pas une once de ténèbres. Il n'y a pas un grain de sable d'impureté en Dieu. Sa lumière est plus puissante qu'un laser. Vous savez qu'avec un laser, on peut fendre de la matière. Mais Dieu est tellement plus grand, plus infini. Dieu est lumière, une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible. Et cette lumière inaccessible, c'est lui-même. Il est encore plus lumineux que le soleil. On ne peut pas se tenir dans sa présence telle que nous sommes. Et si il est infini dans toutes ses perfections, c'est qu'il a une perfection morale infinie. Sa majesté est indicible, on ne peut pas l'exprimer. Sa lumière exprime sa sainteté. Et parce qu'il est lumière, Dieu, même s'il est inaccessible, en même temps, il est personnel. En même temps, il est accessible. Il rayonne. On en ressent ses rayons. Il se révèle et même il nous révèle qui nous sommes. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, que je comprenne qui je suis en toi. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. La lumière de Dieu vient nous rejoindre. Il se révèle, il se manifeste. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils affirment, ces hérétiques? Ces gens pensent qu'à cause de leur super spiritualité, ils sont au-dessus de la morale. Voilà leur prétention. Ils sont tellement spirituels qu'ils pensent que leur péché n'affecte pas leur communion avec Dieu. Mais Jean rétorque. Si nous disons que nous sommes en communion et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire, vous souvenez ce faisceau lumineux, marcher dans les ténèbres, c'est marcher à côté, hors, ou tout autour, mais hors de cette lumière. Il y a une question de dissimulation. Si je suis dans les ténèbres, il y a quelque chose qui ne se voit pas. Ça veut dire que je suis dans l'ombre. Il y a quelque chose que je cache. Je manque d'authenticité. Je ne suis pas dans la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Quand je suis dans les ténèbres, je ne suis pas dans la vérité. Alors comment être en communion avec la lumière si je ne suis pas dans la lumière? Être dans les ténèbres, c'est pratiquer le péché. Et les péchés, on ne peut pas faire la liste. Tellement, tellement il y en a des péchés. Alors bien sûr, il y a les péchés, les grands péchés, entre guillemets, ceux qui sont tellement flagrants. Un adultère, un vol, un meurtre. Bien sûr, tous ces péchés-là, ça nous paraît assez logique que quand on pratique ces péchés, on marche dans les ténèbres. Mais vous savez que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. C'est dans les Proverbes qu'il est écrit ça. Avec notre langue, dès qu'on calomnie un frère ou une sœur, dès qu'on se met à dire du mal, dès qu'on essaye juste d'insinuer quelque chose, de manipuler juste un petit peu, on n'est pas sous le projecteur. Et cette parole, elle est vraiment terrible parce que ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Si pendant mon parcours sur terre, j'ai marché dans les ténèbres, avec ma langue, je vais goûter les fruits. Si j'ai tué avec ma langue, je vais goûter les fruits. C'est pas un très bel avenir en perspective. Jean est en train de dire, si tu as deux poids, deux mesures. Si tu dis quelque chose en face, mais ton discours est différent quand tu es dans l'ombre. Tu n'es pas dans la lumière, tu marches dans les ténèbres, la vérité n'est pas en toi. Si tu salis une personne, tu marches dans les ténèbres. Si tu caches une partie de tes fréquentations, bonne ou mauvaise, mais qu'il y a quelque chose que tu caches, c'est comme s'il y a un peu des grains de sable dans les rouages. Pourquoi est-ce que tu caches? C'est quoi la vraie raison? Est-ce que c'est une protection pour quelqu'un? Si on est dans le cadre des chrétiens persécutés, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut cacher, bien sûr. Mais quand c'est entre frères et sœurs, quand c'est entre personnes avec qui on veut être en communion, puis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer franchement, plutôt que de dire, ben écoute, moi je vis ça, je sais que toi tu penses autrement, ou qu'il y a telle problématique, mais dans ma situation ou dans ma réalité, moi j'en suis là. Les choses sont dans la lumière. Mais dès qu'on commence à dissimuler, on marche dans les ténèbres. La liste, je peux... C'est pas le but. C'est pas le but d'allonger la liste. Mais ce qui est terrible, c'est que Jean, il dit, si tu dis que tu es en communion avec Dieu, mais que tu marches dans les ténèbres, tu mens. Tu es dans le mensonge. C'est extrêmement grave. Tu ne pratiques pas la vérité. Alors être spirituel, avoir reçu un appel, être charismatique, porter du fruit, ça ne suffit pas. Bien sûr, quand on porte du fruit, on peut se dire, mais cette personne, elle demeure en Christ. Oui, il faut que ce soit du bon fruit digne de repentance pour que ce soit le vrai fruit. Et je pense que Dieu fait tellement grâce qu'il y a des personnes qui portent du fruit malgré... qu'il y a des choses à revoir, mais il fait tellement grâce qu'en fait, ce fruit, il est surtout au bénéfice de quelqu'un qui en avait besoin. Et c'est là que je vois surtout la grâce de Dieu. Mais la personne qui porte du fruit en ayant un pied dans les ténèbres n'est pas en communion avec Dieu. Il y a du sable dans les rouages. Si tu es dans l'ombre, tu n'es pas dans la lumière. Croire que le péché et la fausseté n'altèrent pas notre communion avec Dieu, c'est un leurre, c'est un non-sens. Alors, arrivé à ce stade, peut-être qu'il est bon de se dire, mais j'en suis où dans ma communion avec mes frères et sœurs? Avec tous mes frères et sœurs. Avec l'ensemble de la communauté. Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Et c'est une question, je pense, qui prend du temps. J'en suis où de ma communion avec Dieu? Alors certains me diront, non, mais moi, de toute façon, être en communion avec Dieu, ça me suffit. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu sans être en communion avec tes frères et sœurs. Reprenez cet acteur qui est dans la lumière. On le voit tel qu'il est. Il est révélé par la lumière. Il bénéficie de la chaleur de cette lumière du projecteur. Et voilà qu'un deuxième acteur qui arrive et qui vient... sous la lumière. Maintenant, ils sont deux. Eh bien, ils sont en communion. Ils sont en communion parce qu'ils bénéficient de la même lumière. Ils se voient, les deux, comme ils sont, puisqu'ils sont révélés, illuminés. Ils ressentent la même chaleur. Et ils sont illuminés par la même source. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres, mais il n'y en a qu'une de lumière, c'est Dieu. Donc, si tu es en communion avec Dieu, tu es dans cette lumière avec tous ceux qui y sont aussi. Tu bénéficies de la même grâce. La communion, c'est avoir part de quelque chose avec quelqu'un. Tu as part à la grâce de Dieu, tu as part à son Saint-Esprit. Alors on est en communion, quand on est dans la lumière, on est en communion par l'Esprit de Dieu. Ce qu'on va peut-être appeler le feeling dans l'amitié, mais dans une communion avec Dieu, c'est son Esprit qui nous lie. On ne peut pas être en communion avec Dieu sans être en communion avec les frères et sœurs. Je pense que c'est vraiment bien de se poser la question, mais est-ce que je suis en communion avec mes frères et sœurs? Et si je ne le suis pas, pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis pas certaines parties de ma vie à telle personne? Pourquoi est-ce que je garde telle personne à distance ou des choses comme ça? En fait, des fois, il y a des vraies raisons qui sont justes. Et ça, c'est pas marcher dans les ténèbres. Mais des fois, on va se dire, oui, mais c'est parce que elle est comme ci, c'est parce qu'il est comme ça, c'est parce que. Et puis on fait la liste, ok, faites la liste. Même maintenant que je suis en train de parler, peut-être qu'il y en a certains, vous vous dites, ah ben ça c'est tout à fait cette personne. Je suis sûre qu'il y en a plein qui pensent à quelqu'un. Je ne regarde pas, je suis sûre. Ok, eh bien faites votre liste. Cette personne c'est ça. Faites votre liste. Et puis pourquoi j'ai un problème de communion? Mettez cette liste au Seigneur et dites-vous que vous êtes aussi mal pris que toutes ces personnes ou ces situations. Mais ça, c'était la façade. Maintenant, parlons de nous-mêmes. Parle de toi. Parle de toi devant Dieu. Ok, j'ai vu toutes les problématiques qu'il y avait dans les autres. Mais qu'est-ce qui reste en moi? Est-ce que je suis si parfait que ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en communion avec mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui viendrait de moi? Je pense que c'est... Je n'ai pas envie de parler d'introspection parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'état de notre cœur. Mais je pense qu'il est bon de s'arrêter, de prendre du temps. Prenez du temps cette semaine à vous dire, mais est-ce qu'il y a des personnes avec qui il y a un malaise ou quelque chose? Est-ce que je suis dans la lumière? Et qu'est-ce qui pourrait faire que je ne le suis pas? Et comment est-ce que je pourrais revenir dans la lumière? Surtout que vous allez me dire, mais de toute façon, c'est impossible de pécher. Donc quand je pêche, je suis dans les ténèbres, et puis quand je pêche plus, je suis à la lumière, puis je fais le va-et-vient, comment ça marche? Au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et c'est là qu'il est important de comprendre qu'est-ce que c'est la signification de marcher. Quand on dit que quelqu'un marche dans les ténèbres, il y a une notion de mouvement dans la marche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui tourne le dos à la lumière et qui s'en éloigne. C'est quelqu'un qui, dans ses habitudes de vie, dans sa mentalité, dans sa façon d'agir, d'évoluer, dans ses actes, dans ses paroles, tourne le dos à Dieu et s'éloigne. C'est une habitude de vie, c'est une mentalité. C'est pas le péché inconscient qui arrive une fois. C'est pas tout à coup on a chuté, on savait bien qu'il fallait pas faire ça, puis on l'a fait quand même. Ou on savait bien qu'il fallait pas dire ça, on l'a dit quand même. Et puis ensuite on se repent, on demande pardon à Dieu. Pour moi, ça c'est marcher dans la lumière. Marcher dans les ténèbres, c'est quand consciemment je fais des choses dans l'ombre. Quand consciemment je prends une voie que je sais ne pas être en conformité avec la parole de Dieu, parce que je connais cette parole. Alors marcher dans la lumière, puisque c'est quand même le titre de ce message, puisque c'est quand même l'exhortation de ce matin, marcher dans la lumière, se tenir sous ce projecteur, être toujours révélé tel que je suis, c'est une mentalité, c'est un choix. Et c'est un choix qui n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle nos péchés. Et c'est lui qui nous soutient pour nous aider à ne pas pécher. C'est lui qui nous amène à la croix de Christ pour confesser nos péchés. Et Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors bien sûr qu'on va tomber, bien sûr qu'on va pécher jusqu'au bout. N'essayez pas de penser que vous êtes parfait, vous ne l'êtes pas. Mais si vous marchez dans la lumière, c'est dans la lumière, puisque la lumière c'est Dieu lui-même, c'est dans la lumière que vous pouvez recevoir la purification des péchés, c'est pas dans les ténèbres. Voilà pourquoi c'est tellement important. Voilà pourquoi quand on marche dans les ténèbres, on perd notre communion avec Dieu. Et perdre notre communion avec Dieu, c'est ne pas demeurer en lui. Si je ne demeure pas en lui, mon salut, à un moment donné, semble compromis. Demeurer dans la lumière, c'est là qu'il y a le salut. C'est là qu'il y a la croix. Jésus a triomphé des ténèbres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. L'appel de ce matin, c'est de marcher dans la lumière. Soyons authentiques, soyez authentiques, soyez vrais. Allez dans ce faisceau lumineux et reconnaissez quand quelque chose ne va pas. Ben oui. Ça va pas. Ben oui, j'ai fait faux. Ben oui, je te demande pardon. Demandez-vous pardon les uns les autres si c'est nécessaire. Repentez-vous devant Dieu. Parfois, on se repent devant Dieu, mais on oublie qu'il faut aussi aller un peu demander pardon à ceux qu'on a offensés, quand même, un peu. Marcher dans la lumière, c'est être vrai avec tous les dons, les qualités que le Seigneur nous a donnés et avec tout ce qui est encore de nos imperfections, avec tous nos travers, avec toutes nos difficultés. Et vous savez, on est tellement prompt à juger les autres. On a tous pensé à quelqu'un en se disant, ouf, cette personne, si elle n'est pas en train de tourner autour du projecteur, ce serait bien qu'elle aille sous la lumière. Mais ça, c'est du jugement. Qui sommes-nous pour juger? Marcher dans la lumière, c'est se rendre compte, mais je ne suis pas meilleur que les autres. Mais Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Marchez dans la lumière, profitez de ses rayons, profitez de sa chaleur, profitez de la communion avec son Saint-Esprit. Essayez de regarder vos frères et sœurs avec les yeux du Seigneur. Seigneur, montre-moi quel est ton cœur pour cette personne. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur pour cette personne? J'ai un problème avec cette personne. Comment est-ce que je peux prier pour lui, pour elle? Quel est le fardeau que tu mets en moi pour être un sujet de bénédiction? Marcher dans la lumière, c'est connaître ce qu'il y a dans cette parole et l'appliquer. On a chanté des chants magnifiques tout à l'heure. Je me suis dit, waouh! Pourquoi je dois toujours prêcher sur des sujets pareils? Parce que quand même, le thème ce matin, c'est qu'il faut détester le péché. C'est que le péché, c'est quelque chose qu'il faut tenir, mais c'est la problématique, c'est la radicalité du péché qui nous prive de la communion avec Dieu. Je me dis, mais avec tous ces chants, et ces chants d'amour, de consécration, mais justement, si on veut que ces chants s'appliquent à nous, si on veut aller dans ce jardin du Seigneur, si on veut l'inviter dans notre jardin, il faut être dans la lumière. Et au verset 6 du chapitre 2 de 1 Jean, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher, évoluer, vivre, aussi comme il a marché lui-même. Comment Jésus ferait à ma place? Comment Jésus a fait à son époque quand il était sur terre? Qu'est-ce que son esprit me dit aujourd'hui? De quoi est-ce qu'il convainc mon cœur si je prends la peine de m'arrêter, de lui dire, oh là, Seigneur, ça brasse dans mon cœur. Là, j'ai envie de cogner. Qu'est-ce que tu me dis, toi? J'ai envie de sortir des paroles. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Marcher dans la lumière. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous sommes sauvés par grâce. Nous n'avons qu'un mérite. Le salut de Jésus, il est pour tout le monde, pour tous ceux qui vont dans la lumière. Alors restons tout petits devant sa face. humilions-nous sous sa puissante main. Marchons dans la lumière. Amen.